Escalade. La Méridienne.
Allez, aujourd'hui avec nous en studio, Anne Petit-Demange, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes avocat.
Oui.
Au barreau de Lyon.
Oui.
Et j'ai été étonné, avocat sur votre site internet, il y a écrit avocat, il n'y a pas écrit avocate.
Oui, c'est une bonne question. Ça, c'est vraiment de la sémantique. Mmh. Et il faut se... On dit souvent avocat, effectivement. Ouais. Ça ne nous empêche pas de nous appeler mon cher confrère ou ma chère consœur quand on s'adresse à un homologue féminin de notre métier. Mais oui, c'est vrai que de la même manière que les médecins, on ne féminise pas toujours. Mais c'est un débat qui pourrait essayer de s'ouvrir mieux.
C'est vrai.
Et plus.
C'est un peu anecdotique par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On va parler de votre métier, en quoi ça consiste. Et on va parler des étapes du processus juridique. Vous êtes spécialisé, les avocats, si j'ai bien compris. Le domaine juridique est très large, il y a plein de choses. Vous êtes spécialisée dans quel domaine ?
Alors, je suis spécialisée dans spécialisée, un terme qui est un petit peu particulier, qu'on ne peut pas utiliser comme ça. Un titre de spécialisation, c'est quelque chose qui est conféré par l'ordre, qui plus est l'ordre des avocats au barreau de Lyon, qui tient à ce que la spécialisation soit délivrée, qui vient valider des compétences. Moi, je peux dire que je ne détiens pas ce titre de spécialisation, mais que je me suis formée et que par mon expérience et par ma formation, j'accompagne aujourd'hui les victimes d'infractions dans le cadre de leur parcours, aussi bien du début de la commission des faits jusqu'à la valorisation, la reconnaissance de leur statut et puis de leurs blessures consécutives. Et si je puis me permettre, je leur fais juste une toute petite digression. Vous m'avez présenté, je suis donc effectivement avocat au barreau de Lyon, mais je suis également implantée au barreau de Villefranche-sur-Saône, où j'ai un bureau que je fréquente très assidûment ces derniers temps. Et j'ai la double casquette et donc la double implantation territoriale.
Ouais, vous avez deux bureaux, il y en a un qui est à Lima, c'est ça ?
Oui, exactement.
Ok. Alors, comment ça se passe quand une personne vous contacte ? Déjà, est-ce que c'est une personne qui vous contacte ou est-ce que c'est même un processus judiciaire qui met en relation des victimes d'infractions et des avocats ?
C'est une bonne question. C'est-à-dire que les victimes ou les clients, tout simplement, peuvent venir à nous par plusieurs biais. La plupart du temps, ce sont quand même les victimes elles-mêmes qui sont en recherche de conseils. Elles peuvent être orientées vers des avocats habitués ou spécialisés ou rodés à cette compétence qui est la mienne. Mais la plupart du temps, les victimes, elles font ce travail seules parce qu'elles ont besoin aussi d'identifier un partenaire avec lequel elles vont travailler qui... et conforme aux valeurs de vie, et pas seulement uniquement à la compétence, mais aux valeurs de travail. Par valeurs de vie, je ne m'exprime pas forcément à propos, mais aux valeurs de travail qui sont... Je pense par exemple aux valeurs d'écoute, aux valeurs de proximité. Et ça, c'est quelque chose qui, dans leur quête, dans leur recherche, ça peut se déterminer. C'est une relation de confiance qui se tisse dès que la victime, elle nous contacte. Et puis on voit si ça match. Et ça, c'est hyper important parce qu'après, le travail...
Parce que j'imagine que en fonction de l'affaire qui a touché ces victimes, ça peut être plus ou moins compliqué et du coup, il faut avoir une relation particulière avec son avocat. Si ça matche pas, si on se comprend pas et qu'on s'entend pas, ça peut être très compliqué.
Je suis d'accord avec vous. Alors, dans toute relation de travail, je pense qu'il y a vraiment un lien de confiance qui doit se tisser, un lien de respect. Voilà, il y a des choses qui doivent être, enfin, des façons de communiquer, des façons de... Mais qui plus est, dans le cadre quand on s'adresse à des victimes d'infractions, des personnes qui sont blessées, des personnes qui ont vécu des choses qui ont touché l'intime, on doit vraiment... pour moi, en tout cas, c'est des valeurs cardinales qui doivent gouverner cette relation. Mmh. Et ça se... décide pas, c'est quelque chose qui se crée et qui se vit.
Ok. Alors, moi, mon expérience du monde judiciaire se résume à ce que j'ai vu dans des films et des séries télé.
C'est un début.
Et ça fait longtemps que j'ai pas regardé de films policiers, donc en plus, j'ai aucune idée de comment ça se passe. Une fois qu'un client, qu'une victime vous a contacté, c'est quoi les étapes et le déroulé de la procédure ?
Alors, ça dépend. parce que les victimes, quand elles nous contactent, elles ont un besoin qui s'exprime à un moment donné et toutes les victimes ne viennent pas avec le même besoin. Après, il y a des noyaux communs à toutes victimes, c'est-à-dire les victimes qui nous contactent, c'est qu'elles sont victimes d'infractions, c'est-à-dire de faits qui sont répréhensibles et qui sont punis par le code pénal ou le code de la route quand il s'agit de victimes qui sont victimes de d'accidents de la voie publique. Donc il peut y avoir voilà plusieurs bases légales à tout cela, mais elles peuvent avoir déjà avancé, elles peuvent être à des stades en fait différents de leurs besoins. Si on prend celles qui l'infraction vient de se produire, imaginons un accident de la voie publique et qu'elles ont besoin aujourd'hui l'accident est grave, il y a des blessures graves. Il faut se poser la question ensuite de qu'est-ce qu'on fait. Il y a plusieurs orientations possibles. Il peut y avoir, aujourd'hui, on favorise beaucoup, la justice favorise beaucoup, mais également les avocats travaillent également en ce sens sur la phase amiable pour que la victime puisse être réparée, j'entends bien sur le plan pécunier, de son préjudice corporel, donc de ses blessures, par l'intermédiaire d'une démarche avec la compagnie d'assurance du véhicule qui a pu entrer en collision avec elle et dont l'auteur, le conducteur, est responsable de ses blessures. Donc là, on est sur la mise en place d'une expertise, la construction d'un dossier avec rassembler un certain nombre de pièces qui sont indispensables et fondamentales pour que le dossier puisse exister et que leur réalité, la réalité de ce qu'elles ont traversé, de ce qu'elles traversent encore, puisse s'exprimer. Et puis, il y a aussi la phase judiciaire, la phase où la justice s'en mêle un peu, parce que quand vous avez... alors, on peut sortir de la victime classique, celle dont je vous parlais, de l'accident de la circulation, pour aller sur celle qui est, par exemple, victime de violence conjugale. Et la victime de violence conjugale, aujourd'hui, si elle dénonce les faits, même sans déposer plainte, le procureur de la République peut choisir de poursuivre ces faits, de poursuivre l'auteur de ces faits si il ressort de l'enquête que ces faits sont matériellement constitués. Et on entre donc dans un procès pénal avec une audience qui va se tenir, la préparation de ce type de vécu qui est quand même pas forcément un vécu commun, qui n'est pas un vécu habituel et dont il faut réussir à donner les clés, expliquer comment ça se passe. Et donc, il y a aussi dans notre travail de la pédagogie pour réussir à rendre la victime maître aussi de ce qu'elle vit et pas seulement subir. Les étapes, elles sont différentes selon les faits qui sont à traverser, mais il est vrai que la justice et les partenaires autour de la justice permettent à nous, avocats, mais également aux associations de victimes, d'être des relais, des interlocuteurs pour que, selon les faits qui sont vécus, les victimes puissent obtenir des informations adaptées à leurs besoins.
Ce que je comprends aussi, c'est que c'est pas parce qu'on fait appel à un avocat qu'on va forcément finir comme dans les films et les séries que j'ai vus, dans un grand tribunal avec un jury. Sûrement plus que les films que j'ai vus, c'était surtout des films américains qui correspondent pas forcément à la justice française. Ça peut se passer, par exemple, l'infraction de la route, vous l'avez dit, à l'amiable, dans des conditions très simples.
Oui, ça peut être quelque chose... alors, c'est dans tous les cas, je pense qu'une victime, quand elle vient, elle a besoin de reconnaissance. Elle a besoin d'avoir, de comprendre ce qu'elle a vécu. Elle a besoin d'être reconnue et d'être entendue. Et après, les moyens qui sont mis à sa disposition pour pouvoir faire avancer son dossier, ça dépend aussi de son envie. Son besoin, il peut être aussi d'être réparé sur le plan pécunier. Donc effectivement, là, l'amiable peut être une voie ouverte. Quand les faits sont si graves, je pense aux victimes d'accidents mortels de la circulation et que l'auteur des faits, même s'il ne les a pas souhaités, ces faits, c'est-à-dire l'auteur, celui qui conduisait le véhicule et qui a causé le décès, que ce soit d'un cycliste, que ce soit d'un accident grave de la circulation qui a impliqué des décès dans une autre voiture, ces faits, ils doivent avoir une réponse pénale. La personne est souvent soit poursuivie, soit pour des faits involontaires, des blessures involontaires, soit pour un homicide involontaire. Et oui, malheureusement, on se retrouve, et malheureusement, parce que si personne ne le souhaite, mais c'est nécessaire et légitime qu'à un moment donné, il y ait une réponse pénale qui soit accordée à cela. Et si on se retrouve quand même à un moment donné dans une enceinte judiciaire. Mmh. Et avec, il faut faire attention à bien expliquer la place de chacun, le rôle de chacun. Qu'est-ce que fait un procureur de la République? Qu'est-ce que fait un juge? Ouais. Qu'est-ce que fait une formation collégiale, c'est-à-dire un juge avec des assesseurs qui vont l'aider à prendre une décision? Qu'est-ce que fait un greffier? Qu'est-ce que fait un huissier audiencier? Mmh. Et puis, pourquoi une audience est publique et pourquoi d'autres personnes peuvent être amenées, quand les personnes sont majeures, à être témoins, à pouvoir en tout cas être ici, présent dans la salle, pour entendre des choses qui ont été vécues dans le corps et dans le psychique de manière très douloureuse. Ouais. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très très important à conscientiser, ouais, et à préparer. Expliquer beaucoup, ouais, beaucoup, beaucoup. Nous, notre métier, on le sait le faire. Le problème, c'est que il faut le rendre accessible et le rendre compréhensible, et puis amener aussi la personne là où elle doit aller. Et voilà, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce travail d'écoute qu'on a, nous, en tout cas, dont on est dépositaire, parce que c'est hyper important de comprendre quel est le besoin initial de la personne, et que c'est pas parce qu'on a on a la capacité de parler devant un tribunal, donc on a cette possibilité que nous permet notre métier. Il faut rester fidèle aussi aux besoins et à la parole de la victime et son besoin.
Vous m'avez dit que vous étiez en contact avec des associations. J'imagine que des associations de victimes, vous devez travailler avec. Ça se passe comment? C'est quelles associations et c'est quoi le lien que vous avez?
Oui, alors j'ai des liens qui sont en construction, qui sont début avec les assos du territoire caladois. Je connais de mieux en mieux l'association Tandem, qui est implantée ici à Villefranche-sur-Saône, mais qui rayonne sur tout le territoire, toute la compétence du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, donc c'est assez grand. Ouais. Je travaille et j'ai travaillé aussi avec les associations telles que Vifil, telles que LEMA aussi à, ouais, Lyon. Et c'est des associations qui ont... avec ces associations, on peut s'appeler... elles peuvent par exemple être elles peuvent accompagner en fait les victimes, certaines des victimes en audience, pour les aider à attendre, à patienter sur un banc d'audience pendant que les autres affaires passent et que la sienne n'est encore pas passée. Ouais. Donc il y a un travail de partenariat chacun avec la victime a un lien différent, et donc on essaye aussi de croiser les informations, le besoin, surtout si la personne est en grande souffrance et qu'à ce moment-là, il y a peut-être un besoin autre qu'un besoin juridique qui s'exprime. Et donc, l'association a des compétences, ouais, et des possibilités que je n'ai pas. Et parce que je suis ni thérapeute, ni médecin, ni dépositaire de tous les conseils, par exemple matrimoniaux, des conseils d'une autre nature que le conseil juridique. Donc, on peut faire appel à ces associations pour cela, mais elles-mêmes aussi peuvent s'inviter dans le procès pénal par un soutien humain, un soutien de conseil. Et puis, c'est des échanges de cette nature qu'on peut avoir. Et moi, j'aime dire qu'on travaille main dans la main, parce qu'on on travaille avec les mêmes personnes, mais on n'a pas forcément le même...
Le même rôle.
Ouais. Et chacun a sa place. Et c'est hyper important de se dire que les victimes, elles ont la capacité de bénéficier de quelque chose d'assez large et complet pour pouvoir avancer et, ouais, se relever de ce trauma. Ouais. Parce que être victime d'une infraction, ça reste, et j'en suis convaincue, à chaque fois quelque chose d'assez traumatisant. Et donc, il faut savoir faire quelque chose après.
Est-ce qu'il y a des personnes qui... peut-être que vous ne les rencontrez jamais du coup, mais qui ont des freins à l'idée de rentrer dans une procédure judiciaire, qui se disent ce que, ouais, j'ai vécu, c'était déjà, ouais, assez traumatisant, dur, j'ai pas envie revivre, ouais, à travers une procédure judiciaire.
Oui, ouais, tout à fait. J'ai en tête le dossier d'hier que j'ai plaidé à la cour d'appel de Lyon en chambre correctionnelle. Une partie civile, c'est-à-dire une partie civile, c'est une victime qui veut avoir une existence dans le cadre de son procès. Donc une victime devient une partie civile si elle prend un avocat, si elle se constitue partie civile à l'audience. Et elle s'est constituée partie civile, mais n'a effectué aucune demande indemnitaire ou pécuniaire en réparation de son préjudice dans le cadre de cette audience, parce que cette personne était sous emprise. On était sur des faits de victime de violence conjugale et elle était sous emprise et elle vivait dans un climat. Enfin, elle vit encore dans un climat de peur où elle se dit que moins elle se frottera, moins elle sera en lien encore avec la personne. Et rester quand quelqu'un est condamné à devoir quelque chose à l'autre, ça recrée encore et recrée du lien.
Ouais.
Ça dépend beaucoup de l'état psychique de la personne, où elle en est, et on peut délivrer un maximum de conseils pour expliquer tout ça, pour accompagner en fait ses craintes, mais je reste persuadée que ce qui compte avant tout, c'est de respecter ce besoin et la parole libre de la cliente. Et donc oui, ça arrive.
Ouais.
Et c'est déjà dur d'arriver à ce qu'elle se constitue partie civile, et c'est déjà beaucoup.
Je change un peu de sujet. J'ai un dernier cliché en tête sur les avocats, c'est que ça coûte très cher.
Oui, c'est vrai. Ce cliché est une colle à la peau. Alors, à bonne, à mauvaise escient, je ne sais pas. Les avocats, ce qu'il faut savoir, c'est que leurs honoraires sont libres. Donc, à la différence d'autres professions, nous, on pratique un petit peu. Alors, évidemment, on a un serment, hein. On n'est pas libre de pratiquer des honoraires énormes. Mais en tout cas, je peux vous parler de ce que je peux pratiquer, de ce que pratiquent un certain nombre de mes confrères dans le cadre de mon domaine de compétences. On peut assister des personnes au titre de l'aide de l'État, ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle, si les personnes remplissent les critères. C'est-à-dire il faut remplir, il y a un simulateur sur Internet où il faut remplir une demande à déposer au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire. Ça, on peut assister, accompagner les victimes en ce sens. Et puis, si malheureusement, vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide de l'État, que vous êtes on gagne davantage, vous pouvez avoir une protection juridique qui prend en charge en tout ou partie les honoraires de l'avocat.
L'assurance.
Ouais, okay. Une assurance type de la responsabilité civile habitation dans le cas d'un accident de la voie publique, si vous avez des conditions de garantie qui sont très favorables dans le cadre de votre contrat d'assurance. Donc ça, c'est aussi un autre relais qui vient un petit peu soutenir le coût que peut représenter un procès ou une assistance à titre de conseil. Nous, ce qu'on pratique aussi beaucoup, c'est que la victime, pour lui éviter ce qu'on appelle la double peine, elles disent souvent, les victimes, qu'elles sont victimes de faits qui sont déjà compliqués, avec lesquelles elles doivent cohabiter, accepter de vivre pour l'avenir, on est obligé, notre déontologie nous impose de leur facturer un petit forfait fixe. Et on leur dit, par exemple, si on a des éléments qui sont quand même suffisamment d'ordre de la certitude qu'elles vont être réparées après de leur préjudice sur le plan pécunier, on leur dit qu'on règle, on prend un petit pourcentage à la fin et que nous, dans l'intervalle, on travaille sans être rémunéré, mais que la rémunération interviendra à la fin
de la procédure.
Donc, ça évite cette double peine.
Ouais.
Et ça permet aux victimes d'être peut-être plus confortables à l'idée de saisir un avocat et de pas... Mais là encore, les honoraires sont libres, mais libres de pouvoir s'adapter aussi aux situations de chacune des personnes qu'on rencontre et de là où elles en sont et de quelles sont leurs possibilités pécuniaires.
Ok. Très bien. Merci de m'avoir répondu en transparence à cette question.
Non, je vous en prie. Il n'y a pas de tabou sur ce type de sujet et je tiens absolument qu'il n'y en ait pas.
Comment est-ce qu'on vous contacte si on a des auditeurs qui se sont dit « elle a l'air bien cette avocate ». Comment est-ce qu'on vous contacte ?
Alors, j'ai un site internet. Il faut taper mon nom et mon prénom, bien sûr. Anne Petit-Demange, avocat. Vous tombez normalement assez facilement dessus. Et puis, il y a toutes les infos.
Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous.
Merci de m'avoir accueilli, merci de m'avoir écouté et puis bonne continuation.
Et au plaisir.
Ouais, avec plaisir aussi.
La Méridienne.